Europe Soir, le 18-20, édition spéciale élection américaine.
Julien Bugier.
18h34, la suite de notre édition spéciale à l'heure américaine, effectivement, avec ce soir le débat des grandes voix, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir,
bonsoir.
Messieurs.
Bonsoir.
Sonia Dredi, correspondante d'Europe 1 à Washington, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Sonia. Et Xavier Yvon, en direct de New York, correspondant d'Europe 1 également aux États-Unis. Bonsoir Xavier. Alors cette fois, nous y sommes. Les Américains votent depuis tôt ce matin. Les premiers bureaux ont ouvert sur la côte Est à 6h et déjà près de 100 millions d'électeurs ont voté par anticipation. On annonce d'ailleurs une mobilisation record. Alors à qui va-t-elle profiter? C'est toute la question. Les premiers résultats seront donnés normalement tard dans la nuit. On va suivre tout cela évidemment en direct avec toute la rédaction qui est mobilisée pour vous faire vivre au plus près l'événement. Dispositif exceptionnel sur Europe 1. Et on le répète, Xavier, pour commencer, ce scrutin se déroule dans un contexte de tension inédite. Observe-t-on déjà, à l'heure où l'on se parle, des mouvements de protestation ou d'intimidation aux États-Unis, Xavier ?
Alors non, pour l'instant, j'en ai pas noté. Et comme vous l'avez dit, pour la météo, c'était un très grand pays. Donc pour l'instant, de ce que j'ai vu, moi, il n'y avait pas encore de mouvement d'intimidation, de protestation. Mais on voit bien qu'il y a une énorme inquiétude. Sonia Dredi le racontait dans le journal de 18h. Il y a Washington qui se barricade, en tout cas le centre-ville. C'est pareil ici où je me trouve à New York. Vous savez, il y a la 5e avenue où se trouve la fameuse Trump Tower. Et tous les commerces de luxe, etc. Il y a des planches de bois sur ces magasins. Oui. Parce que tout le monde craint des troubles. Voilà, c'est peut-être juste de la précaution, mais c'est l'ambiance qu'il y a ici.
Bien. Alors, il y a un événement qui a bouleversé cette campagne électorale et on va en parler ce soir. C'est la crise sanitaire du Covid, dont la vague est arrivée aux États-Unis un peu partout, comme en Europe en février, qui a submergé littéralement le pays. 230 000 morts à ce jour, 100 000 contaminations certains jours et une gestion pour le moins chaotique par le président Trump. D'ailleurs, ces derniers jours, lors de ses derniers meetings, dans le Michigan notamment, il en a remis une couche. Écoutez.
Nos médecins gagnent plus d'argent si quelqu'un meurt du Covid. Vous le savez ça, pas vrai? Nos médecins sont des gens très intelligents. Donc ce qu'ils disent en fait, c'est « Oh, je suis désolé, mais tout le monde meurt du Covid ». Mais en Allemagne ou dans d'autres pays, si vous avez une attaque ou un cancer, que vous êtes au stade terminal et que vous attrapez le Covid, on vous dit « Vous mourrez d'un cancer ou d'une attaque ». Nous, quand on a un doute, on choisit le Covid. C'est vrai, hein?
C'est un truc de dingue, ça, Gérard Carrérou, quand même, d'entendre un président en responsabilité dire quelque chose comme ça. Alors, on pourrait en rire, mais 230 000 morts, quand même.
Oui, le Covid, on peut dire que tout allait bien pour lui, pour une probable réélection, et le Covid lui est tombé sur la tête. Patatras, c'est tombé sur la tête. Alors, en fait, il y a deux choses. Vous me direz, c'est assez injuste, parce que... Enfin, c'est assez injuste sur un point. C'est qu'en Amérique, contrairement à la France ou à d'autres pays d'Europe, ce n'est pas le gouvernement fédéral et le président, ce n'est pas l'autorité centrale qui s'occupe du sanitaire. C'est vraiment chaque État, et on l'a bien vu par exemple à New York, moi mon fils vit à New York et ma fille, les règles sanitaires de New York ont été totalement différentes d'un certain nombre d'États voisins, etc. Donc on pourrait dire effectivement Trump n'avait qu'à laisser faire les autorités locales et accompagner le mouvement. Il a fait l'erreur fondamentale, c'est de sous-estimer complètement et de prendre à la légère quelque chose, l'air de dire « bon, ça passera, c'est pas grand, c'est la grippette ».
Mais c'est ce qu'on attend d'un président de la République, c'est être responsable.
Bien sûr, il n'a pas été,
être responsable dans les crises.
Il n'a pas été responsable de plus de 225 000 morts.
Et puis je rappelle, ce qu'on vient d'entendre est assez éloquent, mais quand même, il s'est campé dans un message d'optimisme, après avoir promis à tort en septembre une distribution massive de vaccins à partir d'octobre. Et il a maintenu des meetings avec des milliers de supporters sans masque. Il y a même une étude qui est sortie récemment qui dit qu'il aurait contaminé via ces meetings, parce que les Américains étaient agglutinés, ses supporters étaient agglutinés, plus de 30 000 concitoyens américains. Charles Villeneuve.
Moi, je crois qu'il ne faut pas... Enfin, c'est une explication, je trouve, cohérente. Il ne faut surtout pas oublier que Donald Trump est avant tout un homme d'affaires, un businessman, et qu'il a vu dans cette crise sanitaire qui a tué 225 000, 230 000 Américains à ce jour, un frein, justement, si vous voulez, un obstacle à la santé économique du pays et notamment à l'emploi, qu'il ne faut pas là aussi oublier, qui était son principal argument électoral
Et qui résume, de chômage,
et qui résume, toute sa philosophie politique.
Et on puis est surtout, là, il n'avait pas de prise aussi. Il n'avait pas de prise sur ce Covid.
Oui, non mais on est là, et c'est pour ça qu'il s'est entêté d'ailleurs. On est là d'abord et avant tout pour faire des affaires, pour gérer, et pas pour gérer les plaies du monde et notamment pour calmer les ardeurs belliqueuses et fanatiques, si vous voulez, du Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après Obama, il ne faut pas l'oublier, il a évacué quasiment toutes les troupes américaines.
Oui.
On est là pour la prospérité des États-Unis. Toute sa philosophie se résume par le slogan de sa victoire en 2016, « America first », l'Amérique d'abord. Et dès lors, tout dans cette pandémie venue de Chine et qui se mettait en travers de sa stratégie, il ne l'a pas vu comme un moyen de rassembler les Américains et de s'opposer en président protecteur. Il ne l'a pas vu à travers un prisme politique, mais économique. Et c'est justement ce qui peut éventuellement lui coûter la victoire.
Alors, est-ce que sans cette pandémie, les rapports de force auraient été différents aujourd'hui ? Xavier, vous nous répondez dans quelques secondes, 18h40. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.
Europe 1. Europe 1, inside the American election. Édition spéciale présidentielle américaine. Et Julien Bugier.
Oui, 18h42, on est toujours ensemble à l'heure américaine avec le débat des grandes voix. Alors Xavier Yvon, en direct de New York, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est vrai que sans cette pandémie, est-ce que les rapports de force auraient été aujourd'hui différents ?
Ah oui, ça c'est sûr. La pandémie, on le disait tout à l'heure, ça a privé Donald Trump de son principal argument de réélection qui était une économie en plein boom. Et d'ailleurs, en fait, il a refusé l'obstacle. Il ne voulait pas voir ça parce que ça l'a privé de ce qu'il pensait faire sa réélection. C'est pour ça qu'il a eu tout ce discours de dire ça va partir à Pâques, vous inquiétez pas, ça partira avec les chaleurs de l'été, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on voit bien, c'est que les démocrates, eux, se sont emparés de la pandémie. Ils ne parlent plus que de ça. C'est l'argument principal de Joe Biden parce que pour les démocrates, c'est l'illustration parfaite de l'incompétence du président actuel. C'est une crise qui n'est pas gérée.
Et ça Xavier, ça résonne, ça, chez les Américains, ceux qui ont voté pour lui ou ceux qui sont indécis, ils se disent, c'est vrai que notre président, il a géré ça n'importe comment ?
Ah oui, parce que c'est ce qu'on appelle ici le poster child, c'est l'exemple parfait d'une incompétence ou d'une mauvaise gestion. Et j'ai rencontré des Américains, des républicains qui avaient voté Trump et qui aujourd'hui, à cause du Covid, disent « bah non, désolé, ce type-là ne m'a pas protégé, je ne vais pas revoter pour lui ». Alors, il y a les seniors en Floride, mais j'avais rencontré une femme dans l'Ohio qui a été très malade du coronavirus et qui disait avec des sanglots dans la voix « il ne m'a pas protégé, je lui en veux, je lui en veux pour ça, il a maltraité le peuple américain ».
Ce qui est intéressant.
D'ailleurs, Donald Trump n'en peut plus d'entendre parler du Covid, puisqu'on l'a vu en meeting, il répète Covid, 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 il ne parle que de ça, il ne veut plus avoir le Covid à la télévision, dans les infos, ça ne l'intéresse pas, il veut qu'on parle d'autre chose.
Mais là, c'est vrai qu'on voit qu'il est un peu en roue libre. Avant-hier, par exemple, il a carrément suggéré qu'il pourrait virer après l'élection, s'il est réélu, l'éminent docteur Fauci, qui est quand même l'un des immunologistes les plus réputés des États-Unis et du monde, et qui est coordinateur, je crois, Xavier, de la lutte contre les maladies infectieuses pour les États-Unis, c'est ça ?
Oui, c'est le principal conseiller à la Maison-Blanche sur la pandémie, mais il est toujours en porte-à-faux avec Donald Trump. Depuis le début, il essaye de ne pas trop le critiquer publiquement, même si on se souvient qu'on a vu une image du docteur Fauci dans un point de presse à la Maison-Blanche qui se prend la tête entre les mains parce que Donald Trump avait encore dit quelque chose de pas très scientifique comme avaler de l'eau de Javel. Mais là, il a fini par critiquer un peu trop la Maison-Blanche et donc il est devenu un ennemi des Trumpistes. D'ailleurs, il est sous protection policière.
Gérard Carrérou, au-delà de toutes ces péripéties, ce qui est dingue quand même rétrospectivement, c'est que Donald Trump n'ait pas senti l'opinion basculer, n'ait pas corrigé les choses et corrigé le tir, même si son intime conviction est tout autre.
Vous savez, il y a quand même quelque chose, il ne faut pas qu'on l'exagère, nous, parce qu'on vit dans un pays très différent et dans une Europe très différente où le principe de précaution, maintenant, est devenu quelque chose d'absolument essentiel, qui régente, on le voit dans notre propre crise de la Covid. C'est pas comme ça en Amérique. Il y a un peu ce côté, vous savez, côté un peu cow-boy et religieux, où on dit, bon, c'est Dieu qui nous a envoyé une épreuve, la maladie, bon, mais ça... les forts survivront et les bon, il y a un peu ce côté fataliste, Inch'Allah, les forts vont survivre. Il faut donc continuer à bosser. Il faut que l'Amérique, bon, ça joue encore parce que sinon, après tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, Trump il devrait faire 20% des voix. Oui. S'il en fait, je ne sais pas combien il en fera, mais s'il en fait une petite moitié, même si c'est une moitié, même si elle est plus petite que l'autre moitié, il y a quand même un soutien, si vous voulez.
Un soutien indéfectible, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse.
Oui, qui s'explique par une mentalité particulière de ceux qu'il soutiennent, et notamment le support religieux dans les petits États. C'est pour ça que ça va être intéressant de regarder un petit peu demain la carte de l'Amérique, comment elle a voté, parce que dans les petits États de l'Ouest, du Sud, etc., il y a encore beaucoup de gens qui trouvent qu'après tout, ce n'est pas la faute de Trump s'il y a eu les morts de la Covid.
Alors encore un mot de la Covid aux États-Unis, parce que c'est vraiment le point de bascule de cette élection américaine. On verra les résultats évidemment à partir de demain si on a les premières estimations. Et c'est vrai que les démocrates, Charles Villeneuve, ne s'y sont pas trompés. C'est leur angle d'attaque, comme l'a dit par exemple Barack Obama, qui est venu prêter main forte à Joe Biden pendant les meetings. Il a dit « Trump a géré ça n'importe comment ». Et ça résonne parce que dès le début, Joe Biden a suivi les avis des conseils scientifiques aux États-Unis, les gestes barrières, porter le masque, alors que l'équipe de Trump faisait tout l'inverse.
Oui, mais parce que, et d'ailleurs, ce que vous décrivez, et ce que décrivait aussi Gérard, c'est très caractéristique d'un référendum. En réalité, cette élection présidentielle est devenue un référendum.
Pour ou contre Trump. Donald Trump, oui.
Voilà. Et ce n'est pas pour autant, moi je traduis ça aussi comme ça, parce qu'il n'a pas changé de posture, ce qu'il a toujours fait aussi. Mmh. Il n'a jamais changé de posture. Vous savez, il est comme Néron dans Britannicus. Pendant que Rome flambait, pendant que les États-Unis brûlaient,
Mais gouverner, c'est savoir s'adapter aussi.
Oui, oui, d'accord. Mais justement, lui, il ne s'est pas adapté. Il en est même arrivé à proposer d'ingurgiter de la javel pour empoisonner le virus. Mais je pense que pour autant, ça n'est pas une adhésion à Biden. C'est surtout, si vous voulez, s'il perd, s'il n'est pas réélu, c'est surtout un rejet, une sanction sur sa gestion. C'est ce que disait tout à l'heure Gérard, c'est ce qui l'a complètement handicapé, et puis aussi les envoyés spéciaux à New York ou à Washington, je ne sais pas où ils sont.
Oui. Mais ils sont à New York et à Washington, ils sont très bien. Aux deux endroits.
Mais c'est assez intéressant, d'ailleurs vous avez Sonia Dridi aussi,
oui,
je crois.
Qu'on va retrouver dans quelques secondes.
Elle a écrit un livre sur Joe Biden, et elle connaît très bien le personnage.
Et bien justement, on en parle après la pause, dans quelques secondes, 18h48, vous restez avec nous. Qui est vraiment Joe Biden? À tout de suite.
Europe 1. Europe 1. Europe 1. The American Choice. Julien Bugier.
18h50, c'est la suite de notre édition spéciale à l'heure américaine dans Europe Soir avec le débat des grandes voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington, et Xavier Yvon en direct de New York, qui est toujours à nos côtés ce soir pour commenter cette élection américaine. Alors si Trump perd ce scrutin, le 76e président des États-Unis s'appellera donc Joe Biden. Qui est-il vraiment? On en parle, 76e président 46e, pardon, président des États-Unis. Oui, j'ai fourché. Merci Yvon, je vous entendais à peine avec l'oreillette. Il s'appellera donc Joe Biden. Qui est-il vraiment? On en parle donc ce soir, celui que l'on surnomme l'éternel revenant, 77 ans. Il a placé sa campagne sous le signe du retour au bon vieux temps, disait-il, ancien vice-président d'Obama et gaffeur hors pair. Xavier, c'est l'anti-Trump en somme, Joe Biden?
Exactement, c'est même l'antidote à Trump. C'est pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs par les démocrates au terme des primaires, même s'il était très très mal parti dans les primaires. Et vous l'avez dit, on l'appelle le revenant. Oui, il a quasiment ressuscité, hein, parce qu'il était très mal parti dans les primaires et finalement il a gagné. Et c'est parce que, oui, c'est l'antidote parfait à Trump. D'ailleurs, il y a un panneau qu'on voit assez souvent dans les rues qui résume pas mal ça. C'est un jeu de mots entre Biden, donc le candidat, et Biden, donc au revoir Donald, qui résume parfaitement pourquoi c'est Joe Biden en face de Donald Trump. C'est le meilleur candidat pour dire au revoir à Donald Trump.
Sonia Dridi, vous avez consacré un ouvrage à la personnalité de Joe Biden. Alors, il a grandi dans les années 40 en Pennsylvanie, dans une ville ouvrière et dans le Delaware. Son père était vendeur de voitures d'occasion, je crois, descendant d'immigrants britanniques et français. Sa mère était irlando-britannique et il a commencé la politique très tôt, en 1970. Il devient sénateur pour la première fois en 72.
Oui, tout à fait. Et en fait, on l'oublie parfois, mais c'était l'un des plus jeunes sénateurs américains à être élu à 29 ans. Et il était vraiment au sommet de la gloire, on va dire, à ce moment-là. Il était entouré de sa première femme, Nelia, et de leurs trois enfants. Et en fait, quelques semaines après son élection historique, hein, à l'époque, personne ne croyait qu'il allait remporter cette élection parce qu'il faisait face à un républicain qui était d'ailleurs proche de Nixon, qui n'avait jamais perdu une élection. Et puis, quelques semaines après sa victoire, eh bien, il a perdu sa première femme et leur petite fille Naomi de 13 mois dans un accident de voiture. Ça a été vraiment une épreuve terrible pour lui. Il dit même avoir pensé au suicide.
Il a une vie bousculée par les tragédies. La perte, vous le disiez, de sa femme et de sa fille. Et puis, plus récemment, son fils, qui est parti, je crois, d'une maladie fulgurante.
Oui, tout à fait. Beau, qui est mort en 2015 d'une tumeur au cerveau. Et d'ailleurs, Joe Biden, ce matin, avant de commencer sa journée, s'est rendu à l'église dans sa petite ville de Wilmington, dans le Delaware, et il s'est recueilli sur la tombe de Beau en disant que ça lui portait chance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'empathie de Joe Biden, surtout par rapport à Donald Trump, qui manque totalement de compassion. Et c'est vrai que son empathie s'explique aussi en grande partie de par son histoire personnelle.
Oui, c'est vrai, Gérard Carrérou, que vu de France comme cela, indépendamment de la politique, parce que c'est aussi ça qui fait le succès d'une élection, c'est un type sympathique, Joe
Biden.
Voilà,
c'est the good guy, comme on dit. He's the good guy. Ouais. C'est le brave garçon. On l'aime bien, Joe. Même les républicains l'aiment bien, Joe. Et quelque part, là, Trump a fait une erreur de com. Lui, qui est un peu le spécialiste des formules et des surnoms et autres, il l'a appelé Sleepy Joe.
Joe l'endormi.
Mais Joe l'endormi. Mais c'est quelque part, on aurait pu penser que c'était terrible d'appeler quelqu'un comme ça et de se dire... mais du coup, ça, c'est plutôt sympathique. Si vous voulez, je me disais cet après-midi, mais est-ce que Biden, comment on pourrait le comparer? C'est un centriste. C'est vraiment un centriste. Il a été un centriste opportuniste. Ouais. À un moment donné, d'ailleurs, les Noirs maintenant votent pour lui, mais à un moment donné, les Noirs lui reprochaient de faire partie au Sénat des Dixiecrats, c'est-à-dire les démocrates du Sud.
Mais alors, parce que dans le genre gaffe, j'en ai une bonne. Vous savez ce qu'il avait dit, ça m'était passé sous les radars en 2008 pendant la primaire à propos d'Obama. Il avait dit, voilà enfin un Noir américain intégré qui s'exprime bien, propre sur lui et bel homme, le rêve, quoi. Voilà. C'est sa citation exacte, hein, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs Obama de le choisir comme colistier.
Oui, mais voilà, si vous voulez, Joe, il fait des gaffes tout le temps. Mais dans la vie, si vous voulez, c'est un centriste invétéré. Donc, il ne faut pas attendre de lui, si c'est lui le nouveau, prochain président, il ne faudra pas attendre de lui des positions fortes sur la suppression des armes aux États-Unis ou sur revenir sur des législations. Il fera une politique...
Sauf sur la fiscalité. Il a déjà dit qu'il augmenterait les impôts pour les plus riches et pour les entreprises.
Il est poussé aux fesses, si j'ose dire, par sa vice-présidente et par une gauche américaine
et
voilà, extrêmement active depuis les élections
de mid-term. Oui, non, mais comme tout bon centriste, il a fait une campagne... minimaliste, de toute façon uniquement basé, on l'a dit tout à l'heure, sur le rejet de Trump. Parce que c'est vrai que Donald Trump est devenu quand même radioactif de manière... Mais est-ce que justement le bon centriste de 77 ans, auteur de gaffes répétées, ne va pas finir comme un soufflé par s'effondrer au profit de Kamala Harris? Et là, il y a même, si vous voulez, une partie du Parti démocrate, en tout cas, qui s'inquiète. Parce que tous les démocrates ne sont pas à l'extrême gauche.
Kamala Harris n'est pas du tout à l'extrême gauche. Kamala Harris n'est pas du tout une gauchiste.
Non, elle est beaucoup moins à gauche que la plupart des autres candidats démocrates des primaires.
Oui.
Mais elle est au centre. Mais elle est au centre du parti, on peut dire.
Xavier, pour prolonger ce que vous venez de dire, c'est une possibilité. C'est ce qu'on dit beaucoup, mais qu'elle finisse le mandat de Joe Biden, si jamais il est empêché.
Ah bah oui, si c'est la vice-présidente et que Joe Biden décède ou est empêché, c'est la logique qu'elle le remplace. Mais ça, c'est un peu un épouvantail que Trump et les républicains agitent. Ils essaient de... Quand ils n'arrivent pas à accrocher sur Joe Biden, comme vous avez dit, c'est le good guy, c'est un type sympa. C'est difficile de le faire passer, de le faire détester, de le faire passer pour un méchant, un escroc. Donc on se rabat sur Kamala Harris, qui est une femme de couleur. Donc voilà, on insiste là-dessus.
Et c'est vrai que les accusations de gauchistes viennent du camp, évidemment, républicain.
Ouais, parce que Joe Biden aurait pu choisir une colistière beaucoup plus à gauche. On avait parlé à une époque d'Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, c'est un peu la Bernie Sanders en femme. Donc, il n'a pas choisi ce côté-là, justement. Il a choisi exprès quelqu'un qui était un peu centriste comme lui pour éviter d'effrayer tous ces électeurs centristes, républicains modérés, qui ne veulent pas revoir Donald Trump, mais qui hésitent à voter démocrate. C'est beaucoup plus facile de voter pour un type comme Joe Biden. J'ajoute juste un truc. C'était le Washington Post qui titrait ça. C'est extrêmement bien vu. Joe Biden, c'est pas Hillary Clinton. Et c'est peut-être ça qui va le faire gagner, parce que Hillary Clinton était détestable et facile à détester. Joe Biden, pas du tout.
Bien, vous restez avec nous, Xavier. L'édition spéciale d'Europe Soir se poursuit. On se retrouve dans quelques instants avec le journal de 19h. À tout de suite.